avec David Abiker.
Esprit libre, et je retrouve donc Ruth Elkrief, kazakh framboise, et Marc Lambron, kazakh moutarde. Ruth Elkrief, que vous retrouvez évidemment tous les soirs chez David Pujadas sur LCI, éditorialiste, journaliste, Marc Lambron de l'Académie française, que vous écoutez le matin vers 7h20, nous parler du bien dire et du beau français. Bonjour à tous les deux, merci d'être là. Alors, l'actualité, Hervé Gattegnaud vient d'en parler, actualité politique, réplique de ce qui se passe au Proche-Orient, réplique sur la gauche française qui est en voie de faire exploser ce bel attelage électoral qui lui avait réussi, puisque finalement les législatives avaient permis de sauver les meubles, notamment au Parti Socialiste. Où en est-on dans cette histoire de la gauche? A-t-on la gauche la plus bête du monde qui se fracasse sur des questions sémantiques à cause de la France insoumise, qui n'arrive pas à parler de terrorisme en évoquant le Hamas? Est-ce qu'on a la gauche la plus bête du monde où finalement on peut relativiser en regardant le reste de l'Europe? Route.
Ce qui est assez atterrant, c'est qu'un certain nombre de socialistes, en l'occurrence hier soir, le Conseil national du Parti socialiste n'a pas osé faire ce divorce réel, mais dit la NUP n'est pas morte, elle est en panne, enfin fait des circonvolutions sémantiques qui sont un peu désastreuses et décevantes. Mais si on compare avec la gauche belge, par exemple, ou la gauche espagnole, les socialistes, les communistes et les écologistes ont été très clairs pour condamner l'attaque et le massacre des kibbutz et de la Rêve Partie.
Les Français.
En France, hein, en parlant de terroristes. Contrairement à LFI, qui continue à s'enfoncer dans le déshonneur sur cette question. Mais donc, si vous voulez, oui, ils n'arrivent pas à divorcer, oui, ils continuent à avoir peur du parrain, en quelque sorte, et à essayer de rester sous sa tutelle, et c'est compliqué, et ils ont du mal.
Le parrain Jean-Luc Mélenchon.
Voilà, mais sur les mots, ils les ont trouvés au début. Ce qui m'inquiète un tout petit peu, mais c'est bon, on aura le temps d'en reparler, c'est que quand même, parce qu'ils ont été clairs, ils se sont précipités un peu hier soir pour condamner le bombardement sur l'hôpital en disant que c'était absolument les Israéliens, alors qu'aujourd'hui le doute existe, qu'il y a une autre version qui doit être évidemment argumentée, qu'on attend de voir prouver, qui est que ce sera un tir du djihad islamique qui a été raté. Mais donc voilà, ils ont été courageux, mais maintenant ils aimeraient bien essayer de pouvoir rééquilibrer très vite leur position.
Marc Lambron, a-t-on la gauche la plus bête du monde?
Non, je crois qu'on a la gauche la plus byzantine et la plus endeuillée. On a rarement vu autant d'esprits progressistes prononcer autant d'avis de décès. Donc les fils de l'avenir deviennent des croque-morts. Ce qui est assez inédit, je trouve, c'est que ce sont les deux anciens partis d'union dominants, c'est-à-dire le PS et le PC, qui aujourd'hui sont en situation minoritaire par rapport à une extrême gauche dominante. Ça m'a fait penser à un dialogue dans les années 70 entre Mitterrand et Didier Motchan, qui était un jeune loup du CRS, proche de Chevènement, qui n'avait que Lénine à la bouche pendant une conversation. À la fin, Mitterrand en a marre. Il dit, mais Motchan, et si Lénine, c'était moi? Eh bien, aujourd'hui, Mélenchon, c'est et si Trotsky, c'était moi? Et d'ailleurs, on se perd en conjecture pour savoir si nous sommes dans une stratégie électorale dans un pays où il y a 6 millions de musulmans, ou si ça n'est pas précisément le fantôme de l'homme au piolet dans la tête qui revient, et pour une sorte de nihilisme politique qui irait vers une politique du chaos. Alors on parle moins de révolution, on parle déjà de 6e République, mais il y a quand même un mouvement qui va vers quelque chose, une sorte de destruction créative, comme dirait Schumpeter en politique, qui maraboute les gens de... Avec dernière chose, la fatalité fractale de la gauche, c'est aussi qu'à l'intérieur même de LFI, on voit bien que les lieutenants sont en train de prendre...
S'émanciper. L'après-Mélenchon a commencé, et les socialistes sont les derniers à s'en rendre compte. C'est un peu un problème.
Est-ce que vous pensez que la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon peut se fracturer?
Oui, je pense que...
Il y a des Brutus,
oui,
quand même.
Non, parce que je crois que la jeune génération en a assez. On a assez, du vieux qui vient mettre son grain de sel et qui, sur l'affaire Quatennens, sur d'autres sujets, n'est pas du tout raccord avec l'atmosphère.
Le vieux, comme vous dites, il a plein de jeunes autour de lui. Il a Quatennens, il a Bompard, il a Mathilde Panot.
Oui, c'est la garde rapprochée. Mais je parle d'un certain nombre d'autres jeunes électeurs, par exemple, dans chez les féministes, l'affaire Quatennens a laissé des traces très très fortes. Donc voilà, il y a un problème Mélenchon. Ça c'est sûr, mais allons au-delà. Est-ce que la gauche française doit être la plus radicale? Est-ce que c'est l'avenir de cette gauche française, alors qu'elle pourrait être une gauche de gouvernement, peut-être dans un délai, je ne sais pas si elle renaîtra de ses cendres et si elle aura le pouvoir, mais en tout cas, elle a une culture de gouvernement possible. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon l'en empêche de façon évidente. Et je ne me lancerai pas dans le débat sur Trotsky et la religion et Trotsky et l'islam, parce que ça serait, je ne suis pas sûre que Trotsky serait Hamas. Mais pardon.
En une phrase, pour être prétendument révolutionnaire, la gauche n'en est pas moins successorale. Et il y a des poignards qui sont dans les étuis, et il y aura sans doute un jour des îles de Mars. Tout quoque mi-fili pourra dire un Mélenchon poignardé à on ne sait lequel de ses héritiers ou de ses héritières.
Un académicien, une observatrice fine de la vie politique, et on peut revenir avec vous deux sur la sortie de Daniel Obono, qui ne parvient toujours pas à qualifier le Hamas d'organisation terroriste et qui a même parlé et utilisé à son endroit le mot résistance. Et nous, en France, quand on entend le mot résistance, c'est entre ici Jean Moulin, on est au Panthéon. Donc là, il faut nous expliquer pourquoi elle serait passible de poursuites judiciaires, parce qu'après tout, il y a la liberté d'expression. Mais là, vous avez regardé le droit, Ruth.
Oui, alors l'article 11 la Déclaration des droits de l'homme, c'est la liberté d'expression. Et donc, nous sommes des fervents défenseurs de cette liberté d'expression. Mais nous avons aussi l'article 421.2.5 du Code pénal, qui dit que le fait de provoquer directement à des actes terroristes ou de faire l'apologie de ces actes est puni de 5 ans de prison et 7 ans si ce sont des délits qui sont commis en ligne. Donc aujourd'hui, il y a une procédure qui va être lancée, Gérald Darmanin l'a en tout cas annoncé, parce qu'il est possible que sa phrase, c'est-à-dire la qualification de résistance, donc qui est donc de flatter ou de défendre ou de légitimer ou d'expliquer tout au moins ou de justifier les actes commis au nom du Hamas, tombe sous le coup de cette loi.
Même l'explication, même dire le Hamas résiste à Israël.
Le mot résistance, vous l'avez dit,
bien
pour
sûr,
nous,
il est connoté, c'est pour positivement
nous, c'est
connoté.
Évidemment, pour nous, et voilà, c'est évident que c'est une valeur suprême, la résistance. Donc le fait de considérer que c'est un mouvement de résistance peut couvrir des actes commis par des terroristes, un mouvement au passage, oui, déterminé comme terroriste par l'Union Européenne et par la France.
Monsieur le Normalien, conseiller d'État et académicien, qu'en dites-vous? Est-ce que vous êtes juriste également?
Eh bien, je vais vous dire qu'il y a un fantôme et il y a de la sémantique. Le fantôme, c'est en effet la résistance avec un grand R, et ça n'est pas d'aujourd'hui. Souvenez-vous que les Mao, par exemple, des années 70, se voyaient comme des fils de Malraux et de Mao, si j'ose dire, et se présentaient comme des résistants, sans doute au grand timonier qui était Pompidou. Bon, la sémantique, c'est assez intéressant parce que Darmanin porte plainte. Donc, il y a ce mot résistance qui, en effet, en l'espèce, peut être regardé comme scandaleux. Et il porte plainte pour apologie du terrorisme, qui est précisément un mot qui est censuré ou qui n'est pas prononcé par les gens de la NUPES. Donc, là, entre résistance...
Par LFI. Encore une fois, il faut être clair, les autres ont dit terrorisme.
Par LFI, pardon. Par LFI, oui. Par Madame Obono. Bon, qui n'en est pas à son coup d'essai en la matière.
Au terme de ces 10 jours d'atermoiement à gauche, de savoir si on se sépare ou pas, quel mot on utilise, qui communique le plus vite et le plus intelligemment, qui s'en sort le mieux?
Ouf.
Qui a le moins de balafre?
Vous voyez notre réaction commune.
Qui a le moins de balafre?
Franchement,
c'est très compliqué. Ça écope,
tout le monde est touché,
de tous côtés.
C'est ça.
Et en même temps, il y a des passoires trouées. Donc l'eau coule, mais on ne sait pas ce qui va rester au fond de la bassine.
Il y a un sondage ce matin que le Figaro publie et où il montre que le Rassemblement National gagne 3 points et que.
Oui, 28% pour Bardella, voilà, aux européennes.
Renaissance en perd 2 et la gauche baisse où est stable et à des niveaux inférieurs à 10%. Je ne pense pas que la gauche sorte gagnante d'aucune façon de cette séquence. D'aucune façon.
C'est Bardella qui sort vainqueur, évidemment.
Oui, alors on verra, parce que c'est vrai que, par exemple, j'ai lu une remarque...
Il y a un sondage dans le Figaro, oui, qui montre qu'il monte en top.
Donc voilà. Oui, non, mais en même temps, je voyais une remarque de députés européens qui remarquaient que les députés européens du RN avaient aussi continué à avoir des relations avec le pouvoir syrien, avec certaines personnalités qui n'étaient pas si clair.
Bien sûr.
Donc au niveau européen, il y a des choses qui ne sont pas si claires en France aujourd'hui. C'est moins le cas, mais en tout cas aujourd'hui, il bénéficie dans ce sondage de cette séquence.
Monsieur Lambre,
juste une remarque encore de l'angle. Je pense qu'avec la montée du RN, vous allez avoir l'apothéose dans ce parti national des prénoms américains. Les Steve, les Kevin, les Jordan, les Brett, qui peuplent les rangs de ce
parti. Dans un parti traditionnellement anti-américain, c'est ça que vous voulez dire?
Absolument. De l'influence des feuilletons américains dans les années 70 sur les prénoms.
On va écouter un jeune homme qui porte un prénom biblique. Il s'exprimait hier à l'Assemblée nationale. Il est ministre de l'Éducation.
Ce sont 179 saisines du procureur de la République qui partent ce jour pour engager des poursuites contre ces élèves. 179 procédures disciplinaires qui partent également. Et pour les cas les plus graves, plusieurs dizaines d'entre eux qui relèvent de l'apologie du terrorisme, je le dis, j'ordonne ce jour l'exclusion de ces élèves dans l'attente des procédures disciplinaires qui se tiendront. À un moment, la tolérance, ça va. La bienveillance, ça va.
Merci.
Et le pas de vague, c'est fini.
Forte déclaration, 179 altérations, atteinte à cette minute de silence, c'est moins que les 800 de Samuel Paty, mais c'est beaucoup trop quand même. On a le sentiment qu'il y a une forme de fermeté, mais la vérité, c'est que à l'école, ça reste très difficile. Et lorsqu'on regarde ce sondage qui montre qu'un professeur sur deux s'autocensure, ça fait réagir des professeurs qui disent « mais pas du tout, nous le faisons pas ». Et j'espère, et tant mieux, mais c'est vrai que ça reste extrêmement difficile de parler d'un certain nombre de sujets à l'école. Et moi, j'ai envie de dire, je comprends ces professeurs qui n'ont pas voulu être des héros malgré eux, mais il y a un combat. Il y a un combat pour la République, et de fait, c'est une guerre qu'ils ne demandent pas, qu'ils subissent, je comprends, mais en fait, peut-être qu'ils doivent redevenir les hussards noirs de la République, ça n'est pas facile, mais ça demande une formation, mais c'est peut-être qu'ils sont obligés de le faire pour défendre cette République.
Allez, un sujet dont on n'a pas peur de parler, hein, y compris en classe, y compris avec des fortes têtes, c'est Picasso et le dessin. Vous y êtes allé, Marc Lambron. Il y a donc l'exposition Rothko à la Fondation Louis Vuitton, mais vous nous donnez aussi envie d'aller voir Picasso au Centre Pompidou.
Je vais voir Rothko tout à l'heure, mais en effet, dans l'actualité sombre que nous venons d'évoquer, il y a un éblouissement. Je vous recommande d'aller au Centre Pompidou. Alors, l'exposition, c'est Picasso et le dessin. Mais alors, c'est éblouissant vraiment de polymorphie, de jaillissement. Techniquement, une palette tout à fait incroyable qui court sur une vie. Et vraiment, c'est un hymne à la joie. Et c'est un moment de beauté qui pourra vous transporter au-dessus de notre temps. Et vraiment dans l'intemporel, comme disait Malraux, de la très grande peinture.
Vous avez été un peu ému.
Ému, parce que c'est...
Qu'est-ce qu'il fait Marc Lambron quand il est ému?
C'est vertigineux. Je n'ai pas tout à fait le syndrome de Stendhal, vous savez, que quand on perd tous ses esprits devant une beauté, mais je suis... c'est comme ça m'étreint, d'une certaine manière, et puis surtout, j'ai la tête qui tourne devant la lumière d'une intense beauté.
Il y a beaucoup d'exploits, hein, Modigliani, Gertrude Stein, Rothko...
C'est la culture qui nous sauvera.
Voilà, il faut Nicolas de Stael, absolument.
C'est la culture.
Sophical, si vous voulez vous amuser, vous allez au musée Picasso et très ingénieux.
La musique classique et la culture, c'est ça qui nous sauvera. Ruth Elkrieff, Marc Lambron, merci à tous les deux d'être venus parler sur Radio Classique aujourd'hui. À suivre la météo, le rappel des titres et France.